Radiolab se laisse emporter ce mois-ci par des vents de folie, des vents arrière, des vents de face, des vents contraires qui nous soufflent dans les oreilles.
Sur les ondes, ce soir soufflent les vents de folie, les rafales de dinguerie, des vies de traverse, des envies de niquer la norme et des souffrances aussi, et parfois invisibles.
Une émission proposée par une majorité de personnes dites valides, aux santé mentale malgré tout fragile.
Toutes et tous concernés.
Radiolab, vent de folie.
C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Ça dépend si mon comportement est inadapté. Il faut l'arrêter quand on a un comportement adapté. Je suis mieux quand je suis sans. On dit soit le médicament, soit le traitement. Quand je l'ai dans mon estomac, je me sens pas bien. C'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Si je ne le prends pas, je mourrai à 100 ans. Si je le prends, je mourrai à 30 ans. Je me sentirai bien toute ma vie. Ça sert pour me calmer, mais ça m'empêche de me réveiller. J'aimerais pouvoir me calmer sans médicaments. Les gouttes, ça sert à endormir le corps. Ça m'emmerde le médicament, ça pourrit mes dents. Le docteur n'est pas un monstre, mais il m'a donné un produit dangereux. Je veux pouvoir réfléchir, ne pas passer ma vie à dormir. C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ?
Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os. Et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être. Mais où, Il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh Modo, t'aurais dirait Giza. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans, et il a choisi l'infime dedans. Vous êtes fou, monsieur Artaud.
C'est d'être casse-cou. En fait, je sais pas comment j'ai été éduquée, mais j'ai peur de me faire mal. Du coup, je me casse jamais rien, j'ai jamais eu de plâtre, du coup, j'ai jamais eu de déclaration d'amour sur le bras, enfin, hyper triste. Et la dernière fois, c'était mon anniversaire et on a emmené tout le monde à la piscine et il y avait un gigantesque toboggan. Et du coup, à un moment donné, j'ai des copains qui m'ont dit « Allez, au bout de la 14e fois où on faisait la descente en toboggan, allez, cette fois-ci, on y va la tête la première et dans l'autre sens, du coup, vraiment allongé, quoi. » Et moi, j'ai dit « Ah ouais !» Après, ils sont tous partis et quand c'était mon tour, j'ai réfléchi quand même pendant quelques minutes. Je me suis dit « Allez, Sacha, tu peux le faire, tu peux !» Et puis après, je me suis assise en mode mémé et en mode you, et j'ai eu quand même des fortes sensations. Mais ouais, j'aimerais bien être un peu plus casse-cou.
Aujourd'hui, il me manque le grain de folie de spontanéité. On est trop sur la réserve et on manque de folie, de joie, de ouais, vraiment la spontanéité.
Alors, le grain de folie qui me manque aujourd'hui, c'est des grains de folie au quotidien, en fait. Comme je travaille beaucoup, qu'il fait très chaud, j'ai tendance à aller travailler, rentrer et plus d'avoir envie de faire rien d'autre. Mais du coup, les impros du quotidien, du style aller se baigner en rentrant du boulot, prendre son maillot de bain et hop, on improvise, on va se baigner, même si c'est 20h, aller boire un coup avec des amis. Tout ce qui nous passe par la tête, qu'on a envie de faire, et ben voilà, de le faire comme ça passe. Voilà, c'est ça, les grains de folie du quotidien.
La folie a une histoire. Le fou, au fond, a une fonction dans la société. Il a, au fond, une reconnaissance dans la société villageoise du Moyen-Âge. Son discours peut être tout à fait reçu. Le fou fait l'objet d'un discours social qui permet de distinguer notamment le furieux, hein, qui doit être l'objet d'une prise en charge spécifique, même si il n'existe pas au Moyen-Âge d'institutions spécialisées pour s'occuper des fous.
On trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres au début du XVIIe siècle. Quelqu'un qui signait le compte de permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises vivant à leur crochet, a publié des œuvres.
Le XVIIe siècle fait passer le fou d'une société qui l'intègre à une société qui, au contraire, le renvoie dans la déraison, l'exclut et l'enferme. Le XVIIe siècle, que Michel Foucault interprète comme le moment du grand renfermement, est pour lui fondateur d'une nouvelle histoire de la folie qui serait celle que nous connaissons aujourd'hui. Il existe des institutions hospitalières, notamment gérées par des religieux, dès l'époque moderne. Mais c'est véritablement à partir des années 1800 et du 19e siècle que se développe tout un réseau d'asile pour les aliénés. Et une loi va venir expliquer dans quel cas on peut interner un malade. C'est la loi de 1838. Cet asile va avoir beaucoup de succès. À la fin du 19e siècle, les asiles sont complètement encombrés. Ces psychiatres vont aussi essayer d'être considérés comme les autres médecins et mettre en place tout un système de thérapie psychiatrique nouvelle, de plus en plus appuyé sur notamment le savoir biologique, les thérapies de choc, l'électrochoc, la cure de Sackel, qui est la cure d'insuline, la psychochirurgie, ce que l'on appelle autrement la lobotomie, et puis à partir des années 1950, la chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle les neuroleptiques. C'est la principale thérapie qui est utilisée aujourd'hui.
France Culture. Histoire de la folie selon Michel Foucault, avec Hervé Guillemin, historien. Ça date d'avril 2019. Et alors, Yann, qui est avec nous ce soir dans Radiolab, toi tu vas nous parler d'une hystérie collective, une hystérie où les Strasbourgeois se sont mis à danser sans pouvoir s'arrêter jusqu'à en mourir. Et oui, tout à fait, l'histoire se passe il y a 500 ans, précisément au début de l'été 1518, tout commence avec une femme, Frau Trophéa, qui se mit à danser frénétiquement, une danse faite de convulsions et de mouvements saccadés et anarchiques. À ce rythme, elle aurait dû s'arrêter très tôt à cause de la fatigue, mais Frau fut incapable de s'arrêter pendant plusieurs jours. Peu à peu, des dizaines de personnes se joignent à la danse, comme pris d'une fièvre incontrôlable. Le greffier de Strasbourg écrira « Une effroyable maladie s'est propagée, si bien qu'une cinquantaine de personnes dansaient jour et nuit, ce qui faisait peine à voir. » Le conseil de la ville convoque les proches qui se disent impuissants. De quelques dizaines, on passe à quelques centaines de personnes et certains prennent peur de cette foule incontrôlable. Pour contenir l'épidémie, la ville décide de regrouper et cacher les danseurs dans un endroit fermé. Il est même décidé de rajouter de la musique pour les faire transpirer en espérant que la fièvre parte avec la sueur. Les médecins de la ville déclarent qu'il s'agit d'une maladie naturelle liée à la conjonction astrale et à la chaleur. En août, la ville décide d'interdire la danse de rue. Des messes sont organisées et des offrandes sont faites pour éradiquer ce fléau. Ceux qui tombent de fatigue continueront même à danser au sol, jusqu'à ce que la fatigue extrême commença à faire des morts. On parle de dizaines de morts, voire de centaines de morts, selon les sources. Comme toujours, tout finit par revenir dans l'ordre des choses à la fin de l'été, mais cela a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui dans ce studio. Danser jusqu'à mourir, mais qu'est-ce qui s'est bien donc passé à Strasbourg pendant l'été 1518 ? Les hypothèses sont nombreuses. Rupture d'un ordre cosmique, intoxication par le seigle, épidémie de folie, phénomène de mode, révolte des femmes contre la vie conjugale ou tout simplement le désespoir. La vérité est peut-être dans un mélange de toutes ces composantes. La volonté de faire échapper le corps à ses limites habituelles fut trop forte à ce moment-là. Ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. L'envie irrésistible de faire pareil, amplifiée par les comportements de foule, le rationnel qui se met à agir comme une bête, le fait de manière extrême lorsqu'il est en groupe, tout aurait pu s'atténuer rapidement, mais un phénomène vint amener une autre dimension à ce geste collectif, l'interdiction. le comportement insignifiant prend instantanément une autre ampleur. La ville prend peur, l'autorité s'en saisit et cela fait propager une véritable épidémie. Il faut se situer dans cette époque de transition où les pratiques pré-chrétiennes qui se rapportaient à des questions de fait par la danse s'est vue confinée à l'institutionnalisation de la religion qui privilégiait la sobriété et le cadre. Mais le peuple a de la ressource et c'est le temps d'un été déconfiné des normes imposées pour s'exprimer par la danse. Les fous étaient donc des résistants, les hors-cadres. La contagion était en réalité un enthousiasme, la danse n'était pas que joyeuse et futile, mais contestataire. Contestataire de la norme sociale. Voilà, je crois que l'on peut dire que Frau souffla un vent de folie dans le petit monde strasbourgeois de l'été 1518. Rappelons-nous aussi que, comme disait Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale de se sentir adapté à une société malade. Et je terminerai en disant que cette épidémie n'est pas unique dans l'histoire. Elle a même existé à toutes les époques. Plusieurs manifestations importantes de manies dansantes ont été répertoriées au cours des siècles. Le 15 juin 1237 à Erfurt, le 24 juin 1374 aux Pays-Bas ou encore à Aix-la-Chapelle en 1417. Quel regard auront nos filleuls sur un événement comme Woodstock, où la jeunesse reste en transe pendant 3 jours, pendant que quelqu'un joue de la guitare avec ses dents et derrière la tête? Ce n'est pas impossible que des dizaines de futurs historiens passent des années de thèse à comprendre ce qui a bien pu se passer pour que l'on se mette dans ces états-là. La folie collective est bien contemporaine.
C'est maintenant 22h, il fait nuit sur Piccadilly. Les Beatles arrivent, Ringo, George, John et Paul. Ils sont en smoking. Ils se tiennent par la main pour entrer dans le cinéma. Ringo se retourne, il fait signe à la foule. Des milliers de jeunes filles bloquent la circulation. Elles ont seulement 12 ou 15 ans. Certaines sont très très jolies. Il n'y a aucun voyou, pourtant on s'y attendait. On dirait que les mods ou les rockers ne sont pas des fans des Beatles. Sur des banderoles, on peut lire « Que Dieu bénisse les Beatles » ou alors « Paul ». Aide-nous à entrer dans le cinéma. 300 policiers, très calmes, forment une chaîne solide, et retiennent les fillettes. On voit des brancardiers qui courent parce que 3 jeunes filles viennent de s'évanouir. Un médecin anglais avait dit un jour que ces filles présentaient les mêmes symptômes qu'une femme accouchant. Eh bien, ça a l'air vrai, vraiment, elles font peur à regarder. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous?
Parce que j'aime George, la soirée.
Parce que j'aime George. L'amour vous fait pleurer, vous? Oui, parce que je suis heureuse. Vous n'avez pas honte de vous mettre dans des états pareils devant tout ce monde? Vous avez le visage couvert de rimmel. Non, je ferai n'importe quoi pour George.
Ce qu'on entend, c'est ce qu'on a en tête finalement quand on pense aux Beatles, c'est-à-dire le phénomène de la Beatlemania, cette scène d'hystérie collective qui ont émergé en 1963 et 1964 et qui d'ailleurs, c'est dans le New Statesman, il y a Paul Johnson, un chroniqueur qui dit, qui écrit « Tous ceux qui affluent en masse autour des Beatles, qui hurlent jusqu'à l'hystérie et dont les visages mornes vacillent sur les écrans de télévision, tous ceux-là sont les moins chanceux de leur génération, les mous, les inaptes, les ratés. » Et ça montre bien que c'est un phénomène complètement nouveau, ce phénomène de fandom, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas d'adulation hystérique. Alors, certains l'associent comme une forme de phénomène un peu puéril, mais d'autres qui se disent que on est face à quelque chose de nouveau, de novateur, et pourquoi pas de féministe.
Et notamment la chroniqueuse Barbara Ehrenreich qui dit que la manifestation des Beatles dans l'espace public, c'est le premier et le plus spectaculaire soulèvement de la révolution sexuelle des femmes. Vous y croyez, vous?
C'est une interprétation. En tout cas, je suis persuadé que les phénomènes qu'on a pu entendre là ou qu'on peut voir sur les photos ou dans les vidéos, c'est un relâchement finalement assez contrôlé de l'hystérie. On est là pour se faire plaisir, pour rire. Il y a une forme de tension sexuelle qui existe, mais il n'y a pas quelque chose de malsain ou d'absurde. Il y a juste des musiciens qui sont là pour donner de l'amour et des fans qui sont là pour en recevoir et en donner aussi.
Je ferai n'importe quoi pour faire un enfant Bruel.
Ils vont tous arriver, les femmes.
les vrais, comme moi, les purs.
Mama, je suis folle de lui, je dois le voir.
Leave Britney alone.
It's Britney, bitch.
Je suis fan.
Et je pense à vous, les auditeurs et auditrices, qui avez craqué votre PEL pour aller voir Mylène Farmer, qui avez craqué vos cordes vocales en reprenant les lacs du Connemara. Je vous vois avec votre collection d'écharpes du PSG ou de posters à la gloire de Philippe Poutou. C'est cette folie qui fait des fans l'objet de tant de plaisanteries. Mais heureusement qu'on peut rire des fans, donc de nous-mêmes, parce que sinon, les questions soulevées par ce fanatisme pourraient bien nous donner le vertige. À quel moment exactement en saurons-nous assez sur les Kardashians ou sur Johnny? À quel moment va-t-on trop loin dans l'idolâtrie? À cette question, les réseaux sociaux ont déjà répondu. Jamais. On va jamais trop loin. Les influenceuses et influenceurs stars se filment au réveil, au coucher, aux toilettes, en train d'accoucher. Et pourtant, la soif des fans semble toujours insatiable, vertigineuse, disais-je. Moi, ce qui me passionne, c'est que la folie des fans raconte des choses sur notre humanité. Si les fans existent et qu'on est toutes et tous un peu fans de quelqu'un, alors la folie fait partie de nous. À une époque de rationalisation, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ouais, faut être fou pour être fan. Et alors ?
Je trouve que les fans sont souvent méprisés parce que c'est souvent lié à la gente féminine ou à des personnes un peu plus jeunes. Et donc, il y a cette manière, en fait, de considérer que c'est une folie ou que c'est complètement hors norme, en fait, d'admirer quelqu'un de manière intense comme ça. Alors que finalement, il y a vraiment un dévouement, je trouve, presque beau de voir que des personnes grandissent avec une artiste.
Seriez-nous en train de nous dire que finalement cette folie est très raisonnable? C'est ça que je comprends.
C'est ça, c'est pas toujours de la folie et c'est souvent même assez beau et quand on analyse le phénomène.
Divers extraits de Radio France sur le sujet de la Beatlemania et puis de la fanatitude en général. On est toujours sur Radio Saint-Fé, c'est le Radiolab.
La Brad Pitt dans la Drôme, mais qui vit à Crétin de Scrap Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est un pitié. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt aussi, mais il n'a pas les mêmes muscles. Miguel Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nulus, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la terme de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Stig dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon nounou de ski à la plage, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Gabriel à Bad Barnes, Adrien Jared de Leto, Claire Géaouda de la Star Academy 4, Mathilda Lily Cole et Celia Erika Durance qui joue dans Smallville. Christophe ressemble à Samir, le cousin de Benzana, qui apparaît dans Hollywood Girls. On l'aime pas trop, il est con, il s'est accouplé avec Aurélie dans L'île des Vérités. Aucun ami ne ressemble à Bradley Cooper. Peut-être qu'un jour ce sera la surprise.
parce que vous avez été la meilleure.
Charline, vous revenez sur la nuit qui a succédé la finale de la Ligue des Champions.
Félicitations aux joueurs du PSG. À Paris, certains n'ont pas réussi à gérer leurs émotions, je dirais. J'ai vu les images de la nuit, je n'avais jamais vu autant d'hommes hystériques que ces 48 dernières heures. Faut dire que c'est vraiment le match de tous les records. 5-0 pour le PSG, 550 interpellations pour les flics, 700 incendies pour les pompiers, 192 blessés pour les infirmiers. Les statistiques sont folles, mais comme on dit en France, l'important, ce sont les trois points de suture.
Rayon déraisonnable, je me souviens, je venais d'avoir mon permis. J'étais trop contente et j'habitais à Paris et je faisais beaucoup de vélo à l'époque. Je slalomais dans toutes les rues parisiennes et du coup, le jour où j'ai eu mon permis, j'avais ce réflexe de cycliste, enfin de mon type de cyclisme. Et du coup, une des premières semaines, j'étais quand même pas dans Paris intramuros, mais je sais plus, dans un bled. J'ai anticipé, je me suis dit ok, j'étais très pressée bien sûr. J'ai vu un rond-point et je me suis dit ah bah ça va beaucoup plus vite si je le prends de l'autre côté. Du coup j'ai pris le rond-point dans l'autre sens. En toute nonchalance, hein, j'étais dans un fort niveau de contrôle. Après j'ai un peu raconté à mes amis et je me suis vraiment fait disputer fort. Mais c'était rigolo!
À l'époque, mon amoureux était loin, il était en Guadeloupe et ça faisait quelques mois voilà, qu'on était séparés par la distance, l'océan nous séparait et c'était compliqué et alors qu'on se disputait quand même souvent, j'ai décidé en fait qu'il fallait qu'on se voie pour s'expliquer quoi. Donc j'ai regardé ce que j'avais sur mon livret, j'avais assez pour prendre un billet d'avion. Je l'ai acheté, le lendemain j'étais dans l'avion, je lui ai fait un SMS pour lui dire que j'arrivais à 14h30 à Pointe-à-Pitre. Et j'ai demandé s'il pouvait venir me chercher. Il était là quand je suis arrivée. Et voilà, on s'est serré dans les bras et c'était juste magique.
Est-ce que j'ai fait de plus déraisonnable dans ma vie? Je dirais que j'ai fait le mur, un voyage scolaire pour aller voir Interville. Et ça, c'était quand même une dinguerie.
I can't escape myself. The two critical lines in there are where he says, left alone, I'm with the one I most fear.
I can't escape myself.
Thank you.
He was a very creative person. He was an artist.
My spirit's free, you won't get me.
Because of that, you don't expect people like that to be completely normal, completely on the same plane as everybody else.
Marks every stride. Can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself.
When someone in a band starts to suffer in that way, nobody really knows what to do about it.
Radiolab, vent de folie.
Et à l'instant, c'était The Sound avec la voix de Adrian Boland.
Je m'appelle Nathalie Gaude-Pérez et je suis formatrice accréditée au premier secours en santé mentale. Une méthode qui est inspirée des premiers secours physiques qu'on connaît plus. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir dispenser des premiers secours, mais effectivement pas forcément avec des gestes physiques, plutôt dans une approche et une écoute pour une personne qui présente des troubles de santé mentale, soit qui ne va pas bien et entre guillemets il n'y a pas une urgence vitale, soit effectivement quelqu'un qui est en situation de crise et pour lequel il faut peut-être intervenir de manière urgente. L'idée de la formation, c'est vraiment d'apporter un premier niveau de connaissance sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale déjà, avant de parler de problèmes, et ensuite effectivement de s'attarder un petit peu plus en détail sur les problèmes les plus fréquents dans la santé mentale et des maladies qui existent et comment ça se répercute pour la personne et comment quelles solutions elle peut avoir pour être accompagnée et être soignée. On parle de la dépression, on parle des troubles anxieux qui sont très très fréquents aussi. On parle des troubles psychotiques que en général tout le monde connaît sans vraiment connaître et on a l'impression qu'il y en a beaucoup alors que finalement c'est un pourcentage très faible de la population qui est atteint de troubles psychotiques. Et on parle des troubles liés à l'utilisation de substances. On parle plus d'addiction aujourd'hui, on parle vraiment de troubles liés à l'utilisation de substances, donc avec par exemple de l'alcool ou de la consommation de drogue à partir du moment où ça a un impact négatif sur la vie de la personne. Voilà. Donc des situations qu'on retrouve bien plus fréquemment qu'on ne le pense. En fait, on en a tous une de santé mentale et au cours de la vie, elle fluctue. Des fois, elle va être bonne, des fois, elle va être moins bonne. Ça peut vraiment tous nous concerner. Il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs sociaux qui peuvent favoriser une difficulté de santé mentale. Donc, effectivement, c'est toutes des choses qu'on aborde. Et puis, en fait, quand on regarde des situations en détail, on se rend bien compte que on peut vraiment tous être concernés, un choc dans la vie, un événement traumatique, ou effectivement, selon l'âge, le développement d'un problème de santé mentale. faut savoir que la plupart des troubles en santé mentale se manifestent à l'adolescence ou quand on est jeune adulte. Donc effectivement, il y a un gros focus sur les jeunes. Il y a aussi un objectif de former en tant que secouriste plus de jeunes, puisqu'ils sont plus à même de repérer des signaux d'alerte chez leurs amis. Et effectivement, c'est aussi très présent chez les personnes âgées. Et un des objectifs de PSSM France, c'est de développer un module de premier secours en santé mentale pour les seniors. Sur le postnatal, il y a 12 à 15% des jeunes mères et parfois des pères aussi qui sont concernés par la dépression du postpartum, toutes les problématiques qu'on appelle de la difficulté maternelle. Donc effectivement, il y a un gros enjeu là-dessus. Mais donc on est effectivement dans un moment de vie, le postpartum, où on est vraiment très fragile et sujet au développement de troubles psychiques. On parle de la dépression du postpartum parce que c'est ce qui est le plus courant, mais il existe plein d'autres problématiques autour de la parentalité, avant la naissance et après la naissance et dans les premières années, voilà, où du coup il peut y avoir effectivement des gros problèmes psychiques.
Antidépresseurs.
Ablutophobie.
Indication, dépression majeure, trouble anxieux, TAG, TOC, trouble panique, douleur chronique, trouble bipolaire en association.
Phobie du popcorn.
Épisode dépressif.
Prozac.
Coulrophobie.
Séroplex.
Trouble psychotique induit par une substance.
Zoloft.
Démonomanie.
Fluoxétine.
Trouble anxieux.
Paroxétine.
Aboulomanie.
Épisode récurrent. Rémission partielle. Rémission complète.
Antipsychotique. Neuroleptique. Indication. Schizophrénie. Trouble bipolaire. Phase maniaque. Dépression résistante. En association.
Silogomanie.
Anxiété de séparation.
Trouble psychotique.
Peur du sang. Trouble panique.
Zyprexa.
Dysphorie de genre.
Risperdal.
Brontophobie.
Seroquel.
Tic moteur ou vocaux persistants.
Abilify.
Déficit de l'attention. Hyperactivité.
Leponex.
Présentation impulsive prédominante.
Timo régulateur. Indication. Troubles bipolaires, prévention des récidives maniaques, dépressives, troubles de l'humeur.
Hélurophobie.
Troubles délirants, type érotomaniaque.
Dégrétol.
Type somatique de persécution.
Lithium.
Troubles psychotiques avec facteurs de stress marqués.
Anxiolytique, tranquillisant, indication. Troubles anxieux. Généralisé, crise d'angoisse, insomnie, à court terme.
Trouble développemental de la coordination.
Diazépam, lorazépam.
Mutisme sélectif.
Atarax.
Dermatillomanie.
Xanax.
Agoraphobie.
Emasta. Et surtout, Valium. Somnifère, indication, insomnie, difficulté d'endormissement au réveil nocturne. You left me anyhow, and then the days got worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, You thought it was a joke, and so you laughed, when I had said that losing you would make me flip my lid.
right? You know you laughed, I heard you laugh. You laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha-ha. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha? Well, you just wait, they'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny farm, where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha-ha. To the happy home, with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha-ha. To the funny farm, where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see...
Radio Lab, Vent de Folie.
On écoutait Napoléon XIV, They're coming to take me away.
À cause de toutes ces mauvaises représentations et ce tabou qui est encore autour de la santé mentale, les personnes sont en souffrance et ne vont pas se faire aider parce qu'ils ont peur du jugement, du regard des autres, ou ont parfois eux-mêmes une mauvaise image de ce qui est un problème de santé mentale. Alors les représentations très communes, et ben c'est effectivement par exemple quelqu'un qui souffre de dépression, et ben en fait qu'il a juste à se donner un coup de pied au derrière pour pouvoir, c'est que c'est un problème de motivation. Ça c'est des choses qu'on voit très souvent. Il y a aussi cette représentation que les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont folles et sont dangereuses. Par exemple à la télévision, dans les journaux, on voit souvent ça, le fou psychotique ou le schizophrène qui est allé tuer quelqu'un. Et puis, par exemple, sur le suicide, on voit beaucoup qu'effectivement, on pense qu'il n'y a rien à faire, en fait, pour empêcher quelqu'un de se suicider ou que c'est un acte égoïste. Voilà, c'est ce type de représentation, pour vous donner juste quelques exemples. Un point très très important, c'est savoir être à l'écoute de soi, de comment on va au moment où on a envie d'aider quelqu'un. Parce que la première étape avant d'aller aider quelqu'un pour lequel on s'inquiète, c'est de savoir si nous on est disponible et si on est en bonne santé au moment de le faire. Et savoir aussi se dire que on n'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être quelqu'un d'autre ou c'est peut-être à un autre moment. Ça déjà c'est très très important quand on va approcher une personne pour laquelle on pense être en souffrance. Et ensuite, effectivement, eh ben, les compétences, ce sont vraiment des compétences sociales, l'empathie, l'écoute active et le non-jugement. C'est-à-dire qu'on en a tous, on juge tout le temps, tout en permanence. Hein, ça, c'est complètement humain. Hein, donc l'idée, c'est pas de dire il faut pas juger, mais c'est de savoir garder ses jugements pour soi, pour que la personne elle puisse se sentir en confiance pour pouvoir nous parler de son ressenti et de sa situation. Et puis être aussi modeste, c'est-à-dire savoir qu'on va pas forcément sauver la personne en une fois, et surtout que il faut pas projeter ses envies et ses attentes chez la personne, et qu'il faudra vraiment s'adapter à son rythme, à elle, pour pouvoir l'accompagner vers des professionnels et des ressources qui pourront l'accompagner. Il vaut mieux être une personne de confiance, mais ça peut peut-être être plus facile d'approcher une amie, un ami, que son enfant. Un enfant, des fois, effectivement, il vaut mieux que ce soit peut-être la tante ou l'oncle. En tout cas, la personne de confiance.
Sur votre page d'accueil, il y a une phrase qui est mise en avant. Avoir une conversation peut tout changer. Sauriez-vous quoi dire ? C'est intéressant de le poser sur le plan de la conversation.
Oui, tout à fait. En fait, on voit souvent qu'on s'inquiète pour quelqu'un, mais on n'ose pas lui en parler, on ne sait pas comment aborder les choses. Et pendant la formation, effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est comment préparer cette conversation, comment l'amener, et surtout eh ben, qu'elle ait bien lieu. Alors évidemment, du coup, il y a des choses qui sont plutôt conseillées, donc des choses à dire et des choses qui sont à éviter, qui pourraient mettre en difficulté la personne que l'on va voir. Mais le plus important, c'est d'en parler. Et donc, effectivement, le fait d'avoir une conversation, simplement montrer à la personne qu'on approche, qu'on s'inquiète pour elle et qu'on est là pour l'aider et qu'on ne la juge pas et qu'on la comprend et qu'on est là pour l'orienter, la soutenir, eh ben, ça peut déjà tout changer, parce que le problème, c'est que souvent, quand on est en souffrance, des fois, on ne s'en rend pas compte forcément soi-même, et surtout, on se sent très seul et on n'a personne à qui en parler. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va venir vers nous, nous dire qu'elle s'inquiète et qu'elle veut nous aider, eh ben, ça peut tout changer, effectivement.
À l'instant, c'était la voix de Nathalie Gaude-Pérez, formatrice, premier secours en santé mentale.
Camisole.
La marque de chemise qui s'attache dans le dos, celle que tu détestes mais que tu protèges de tous les maux. C'est la camisole.
Camisole.
Elle te donne l'unité corporelle. Tu ressens de l'amour hardcore pour elle. Tu comme une soirée, sadomaso. Attaché avec bouche et ficelle dans le dos, c'est la
camisole.
C'est la
camisole.
C'est labellisé bio, disponible dans tous les bons hôpitaux. Elle te promet l'apaisement, sans chimie ni médicaments. Mais oui, c'est la
camisole.
Stop toute agitation, sans toute en finesse, sans prescription. Elle bloque toutes les émotions, oui, car c'est la
camisole.
Commande là chez Amazon, c'est garanti zéro émission carbone. Il paraît même qu'aux USA, le président en est gaga. Mais oui, mais c'est quoi? C'est la
camisole.
Très important de comprendre, c'est d'ailleurs comme pour la formation au premier secours physique, c'est que la formation au premier secours en santé mentale, elle s'adresse à tout le monde. Elle n'est pas uniquement pour les professionnels de l'accompagnement médico-social. L'objectif, c'est pas de savoir donner un diagnostic d'une maladie psychique. Et l'idée, c'est d'avoir un niveau de connaissance qui permet de mieux comprendre, de mieux repérer des signes de souffrance et surtout ensuite de savoir comment intervenir quand on veut aider quelqu'un qui ne va pas bien. Le programme, il vient d'Australie dans les années 2000. PSSM est arrivé en France juste avant le Covid. Ça se développe parce qu'il y a un vrai sujet. À l'international, dans le monde, c'est 8 millions de secouristes dans plus de 50 pays.
J'ai l'impression, quand on regarde les témoignages de personnes formées en PSSM, qu'il y a une majorité de femmes. Est-ce que c'est exact?
Oui. Alors, je ne saurais pas parler pour l'ensemble, pour les 300 000 secouristes, par exemple, déjà formés. Je ne sais pas quelle est la proportion de femmes. En tout cas, pour ma part, sur les formations que je réalise, j'ai très, très, très peu d'hommes. 95-98% ce sont des femmes qui se forment à être secouristes.
Camisole.
Il suffit de la mettre une fois. Et jamais tu la quitteras. Tu seras 100% accro,
oh, oh, oh.
Comme à une ligne de coco,
oh, oh.
Oui car c'est la
camisole.
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 Camisole. Ça fait tourner la tête.
Oui, la camisole.
Comme ce refrain qui se répète.
J'ai bien peur d'être devenu fou.
Camisole. J'espère que cette chanson nous aura pas mis les rouleaux à bout.
Camisole.
C'est la camisole.
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 Comme la
camisole. Ça te calme et ça t'isole bien plus qu'un jeu de mots. Une tension psychotique, c'est une décharge électrique. Camisole.
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 Avec elle, tes mains deviennent théoriques. Tu t'enfermes dans ta maladie psychiatrique. Tu te sens seul dans ta tête. Avec ce refrain qui t'entête, c'est la camisole.
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 Que tu sois fou ou sain d'esprit, qu'elle soit blanche à l'envers ou couverte de vomi. Et maintenant, tu es plus serein, mais à quel prix? Car c'est la camisole.
Camisole.
Yeah, man.
Alors, qu'est-ce qu'une fabuloserie? Une fabuloserie est un univers rempli d'imagination, de fantaisie et de création insolite. Il y a en France quelques musées originaux consacrés à l'art hors les murs. Ces endroits n'ont pas été initialement pensés comme des musées, mais plutôt se sont construits de l'envie irrépressible de créer chez soi son propre monde. On connaît bien sûr l'histoire du facteur cheval qui ramassait tous les jours des pierres et construit pendant toute sa vie un véritable château, avec des détails à chaque angle, chaque arête, chaque espace libre. Mais il y en a d'autres moins connus, notamment la fabuloserie d'Alain Bourbonnais. Les gens du commun à l'ouvrage, un jardin incroyable et des sculptures, des manèges faits de matériaux de récupération.
C'est Alain Bourbonnais, donc notre père, ma sœur et moi, qui était architecte de profession, créateur, collectionneur. Il a façonné cet espace pour mettre ses œuvres. Et parallèlement, il a aussi façonné cet espace-là extérieur, qu'on appelle le jardin habité, parce que vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de monde dans ce jardin.
Et puis de temps en temps, un village qui avait l'air sympathique, et mon père s'arrêtait sur la place du village et puis demandait à quelqu'un dans la rue, vous savez... J'ai entendu parler, là, il y a un monsieur là, qui fabrique des choses un peu bizarres. Je ne sais plus son nom, là. Il habite par là, je crois, mais alors je ne sais plus du tout. Ah oui, monsieur Intel, ben, bien sûr. Oui, oui, alors vous prenez à droite, là, et puis on arrivait. Et en fait, on ne connaissait personne.
c'est que tout ce travail authentique, parce qu'il faut dire que ces gens que nous avons tous découverts n'étaient pas dans les circuits commerciaux, ils les ignoraient même complètement, puisque ce sont des gens sans aucune culture, ce sont des maçons, des mineurs, des agriculteurs, bon, des gens, disons, ordinaires, des gens du commun, comme disait Dubuffet. Donc, à l'abri et en dehors de toutes les modes.
Je vous emmène dans le manège de Petit Pierre. Donc, le Petit Pierre est un homme de son nom Pierre Avezard, qui est né en 1909 et qui est né avec une malformation congénitale, le visage un petit peu mal formé et puis sourd et muet. Il était un petit peu moqué, c'était peut-être un peu l'idiot du village, bon bref, c'était compliqué pour lui. Petit Pierre, c'est l'exemple magique d'un personnage d'art brut. Il a mis en scène tout ce qu'il avait dans sa tête, quoi, et sa vie quotidienne. Petit Pierre a construit cette tour Eiffel en acacia. C'est un bois imprescriptible, 23 mètres de haut. Ça a beaucoup changé son rapport au monde, dans le sens où, comme il faisait visiter au public, il a été reconnu par le public. Et il se régalait, il riait, il s'amusait, et voilà, c'était la distraction du village. Et là, Petit Pierre était le plus heureux des hommes.
Arrivé, je me suis écrit ce texte de merveille et de love. Seulement je suis en paix, ne sois pas triste frérot. Regarde-moi au moins, tu penses à ce qu'on a fait, à ce qu'on a bousculé, à ce qu'on a encaissé. Arrête en cinéma, pense plutôt au soleil, pense plutôt au soleil et à la liberté. Moi je te promets qu'un jour on se retrouvera, et qu'en attendant mon frère, moi je vis qu'à travers toi. Du Holucho Mike.
Bien arrivé, je me suis écrit ce texte de merveille et de love. Seulement je suis en paix, ne sois pas triste frérot. Regarde-moi au moins, tu penses à ce qu'on a fait, à ce qu'on a bousculé, à ce qu'on a encaissé. Arrête ton cinéma, pense plutôt au soleil et à la liberté. Moi je te promets qu'un jour on se retrouvera, mais en attendant mon frère, moi je ne vis qu'à travers toi.
Ouais, comme j'ai dit, tout passe en concert à la fête de la musique à l'Auriol. C'est devant chez moi. C'est dans ma rue. 15 rue du Verger.
Et on vient d'écouter toutes Soleil de Liberté. On les remercie. Et on remercie bien Fabuleux, Durluche, alias le groupe Toutes. Nathalie Godt-Pérez, formatrice en soins mentaux.
En
santé mentale, pardon, excusez-moi. Sandrine, Blandine, Sacha, puis merci à Yann, Annette, Franz, Sylvain, Béatrice, Manu, Hervé et Diego.
C'était Radiolab.
Un vent folie.
Rendez-vous à la rentrée pour les prochaines éditions de cette émission co-construite en trois ateliers.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Liberté totale et soleil.
Exact.
Ça recommence en septembre.
Vivement septembre.
Que souffle un